Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré en confinement et je vous prie de nous excuser pour les conditions sonores forcément un petit peu impactées. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Deroux, la fondatrice de Cocotarium, le poulailler urbain. Coucou Aurélie, je suis ravie de t'accueillir, un peu à distance. C'est mon premier essai de l'enregistrement de L'Empreinte confiné, puisqu'on est aujourd'hui le 1er mai. D'ailleurs, joyeux 1er mai, et je suis ravie de t'avoir dans l'empreinte.
Bonjour Alice, merci beaucoup de m'accueillir, c'est moi qui suis ravie, et puis je suis ravie de passer ce 1er mai avec toi.
Moi du coup, j'ai envie un peu de contextualiser quand même notre échange. T'es confinée où? On va parler un peu de confinement, mais très rapidement avant de commencer, parce que j'aimerais savoir où tu es confinée.
Alors moi, je suis confinée dans l'Oise avec Monsieur Léon, qui est mon chat, qui m'accompagne dans ce confinement. Et je suis dans un cadre plutôt agréable, même si j'ai un petit appartement. Mais quand je sors faire ma petite virée quotidienne, je suis dans un contexte avec de la forêt pas très loin et c'est assez agréable.
Donc c'est assez dépaysant, bon, t'as bien de la chance et profite bien de ton petit chat. Moi aussi j'ai mon petit chat avec moi. Mais du coup, petit chat et poule, puisqu'il va quand même falloir que tu nous racontes ce qu'est Cocotarium. Comment ça cohabite Léon et Cote-Cote?
Alors, Monsieur Léon et les poules, c'est pas trop ça. Ça se regarde de loin.
Dis-nous un petit peu ce qu'est Cocotarium comme ça et après comment tu as eu l'idée. Puisque moi, je t'ai découverte quand j'ai monté ma boîte, puisque j'avais animé une matinale chez Veolia. Et tu avais reçu le prix, d'ailleurs le premier prix. Et on a eu un coup de cœur pour ton concept complètement fou et tu vas nous en parler là. Et du coup, je t'ai recroisé quand j'allais enregistrer Romain Pillard à Change Now et je t'ai croisé et là je me suis dit ok, tu viens dans l'empreinte, c'est sûr, et te voilà.
Merci pour l'invitation en tout cas Alice. En quelques mots, le Cocotarium, c'est un poulailler urbain participatif. Donc c'est une initiative pour sensibiliser au tri des biodéchets à la source. Ça répond à la loi sur la transition énergétique de 2025 qui va imposer à tous les particuliers de trier ces biodéchets. Et donc pour ça, nous on a décidé de remettre l'animal en ville, en l'occurrence la poule, pour inviter les habitants à trier leurs biodéchets via les poules qui, elles, consomment des déchets alimentaires.
Et comment tu as eu cette idée des poules? C'est vraiment, tu avais lu quelque chose, tu avais envie de faire un truc avec les poules? Enfin, on voit beaucoup les abeilles en matière d'écologie, mais la poule, c'est de la poule à l'œuf, c'est vraiment tout ça qui t'a inspiré?
Moi, je suis vraiment passionnée par la façon de vivre des gens et j'ai toujours voulu essayer d'avoir un impact sur les modes de vie des gens de par mon premier métier qui était l'architecture et en général aussi j'aime beaucoup voir ce qui rend les gens heureux en fait. Enfin, j'observe beaucoup les gens pour voir ce qui les rend heureux en fait en général, comprendre un peu leur bonheur. Et en fait, la poule, c'est un peu la Madeleine de Proust de chacun. On a tous un souvenir un peu nostalgique chez nos grands-parents, mais souvent un souvenir assez agréable, à la campagne, avec la poule. Et ça renvoie à une certaine sérénité, en fait. Et du coup, la poule, en plus, avec la symbolique de l'œuf, de l'origine un peu des choses, etc., enfin, je trouve que c'est un animal qui a un symbole assez fort.
Cette problématique de qui, de la poule ou de l'œuf, as-tu la réponse?
Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir élucider ce mystère aujourd'hui.
Donc, si nos auditeurs ont la réponse, on aimerait bien quand même savoir. Mais oui, non, mais c'est vrai que la poule a... Alors, non, c'est pas bien de dire que j'adore le poulet, mais même, oui, le coq, le chien du coq et tout. Non, mais bien sûr, je vois très bien la poule. Mais comment... Tu t'es dit... D'ailleurs, alors, j'ai aussi... normalement, je commence toujours par le parcours, ton parcours, etc. Mais je pense que le confinement a confiné aussi mes neurones. Tu es passé de l'architecture. Donc, tu me dis que tu avais fait des études d'architecture. Ouais. Comment... Tu as trouvé cette idée, donc suite à cette annonce, cette loi. Mais voilà, explique-moi tout ça. Comment c'est venu à toi?
Le cheminement.
Ouais, cheminement, tout à fait.
Donc, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment passionnée par les modes de vie des gens, tout ce qui est phénomène sociologique, ça me passionne pas mal. Et j'ai fait des études d'architecture intérieure et design parce que j'adorais comprendre comment les gens vivaient, en fait. Et c'est pas du voyeurisme, ou alors une forme de voyeurisme assez sain, mais j'aimais beaucoup rentrer dans l'intérieur des gens et voir leurs habitudes de vie, voir... Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conditionnements qui sont générés par l'espace dans lequel on vit. On voit aujourd'hui les ravages des tours, le fait que les espaces de circulation ne soient pas favorables à l'échange. Enfin voilà, on se rend compte qu'on a un véritable impact par ce qu'on impose aux gens par l'architecture. Et donc du coup, quand j'ai fait ces études-là, déjà quand j'ai passé mon diplôme, j'étais déjà sur des projets liés à l'environnement, puisque moi j'avais proposé un projet de réhabilitation des plateformes pétrolières en pleine mer. Je m'étais aperçue qu'il y avait tout un écosystème sous-marin qui se développait, et l'idée c'était vraiment de pouvoir valoriser ça et mettre, enfin voilà, réussir à le préserver et à le valoriser. Et petit à petit, quand j'ai exercé le métier d'architecture, je me suis un peu éloignée de ça, puisque j'ai plutôt travaillé dans le retail avec différents architectes et notamment pour le groupe LVMH. Et j'avais toujours ça dans le coin de la tête, et je me renseignais, je m'informais pas mal sur des projets un peu utopiques. Et en fait, tout simplement, un jour, j'ai répondu à un concours qui était le concours Jardin-Jardin. J'ai invité des amis à moi à se joindre à cette aventure, et en fait on a répondu au projet de Jardin Jardin, et c'est là où j'ai proposé le cocotarium pour la première fois, qui était donc cette fameuse idée de vos déchets contre des œufs, tout simplement. Et c'est là qu'est né le cocotarium. C'était une observation. Ouais.
Si je comprends bien, excuse-moi de te couper parce que c'est intéressant. C'est d'abord venu d'une curiosité sociale, enfin sociologique. Plutôt que d'une idée écologique, non?
Ben pour moi, les deux sont liés. Je pense que, en fait, véritablement, j'ai toujours eu du mal à me définir comme une écologiste parce que j'ai jamais eu l'impression de vraiment de faire des véritables efforts pour l'être.
Ouais.
Bah, je me reconnais pas dans ça parce que, enfin, en fait, moi, j'ai pas fait d'efforts pour ça. C'est juste que quand je suis venue m'installer sur Paris, je me suis rendu compte que, étant donné que je suis pas parisienne de souche, je me suis rendu compte que le manque de nature me manquait, en fait. Mais c'était viscéral, c'était pas pour un effet de mode ou autre. Enfin, même si j'ai aucun reproche à faire à ça, mais c'est juste que voilà, c'était quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, pour autant, j'étais pas forcément le meilleur exemple pour trier ses déchets. J'étais pas forcément le meilleur exemple pour tout un tas de trucs, en fait. Hein. Donc, c'est plus du ressenti. C'est comme ça que j'ai vécu pour moi le démarrage.
Et après, t'as évolué et t'as commencé à t'intéresser à ça. Comme moi, finalement. Parce que moi, je me reconnais dans ce que tu dis, en fait. J'ai ce besoin de nature, ce besoin d'air frais, etc. Et j'ai pris conscience de tout ça, notamment quand je travaillais chez Carrefour. Et puis après, je m'y suis vraiment intéressée. Et puis bah là, regarde, aujourd'hui, on se parle dans l'empreinte. Donc je pense que c'est qu'on y arrive comme ça. Et donc,
c'est un cheminement.
Exactement. Mais du coup, je t'ai aussi coupée dans ton cheminement quand tu me disais que donc, tu me racontais comment était né Cocotarium, du coup, ton idée. Mais donc, si j'ai bien écouté tout ce que tu m'as dit, c'est là que, attention, je vais être notée sur 20 sur mon écoute. tu travaillais encore chez LVMH en archi, en design d'intérieur, au moment où tu as proposé le projet pour la première fois. Ou je me trompe, où tu avais déjà arrêté.
Ouais, non, je travaille encore.
20 sur 20, Alice, c'est bien. Je me donne une bonne image. Donc, je travaille encore. Donc, tu as commencé en tant que co-entrepreneur ou tu ne voulais même pas d'abord en faire un business. C'était juste pour t'amuser. C'était un projet comme ça ou...
Ouais, non, c'était un projet. C'était un projet d'évasion. Tu allais
faire en fait. un poulailler. Moi, je trouve ça tellement
pas
génial, un poulailler urbain de.
Non, vraiment, je travaillais à côté. En plus, je venais d'acheter une maison, donc il fallait que je finance l'achat de cette maison. Enfin, j'avais plusieurs projets, en fait, à côté. Et du coup, il était hors de question que je quitte mon emploi pour me lancer dans cette aventure. C'était pas du tout prévu, en fait.
Donc, on va continuer le cheminement du petit poussé, du coup. Comment tu en es arrivée à finalement en vivre, quoi? Enfin, en vivre, à monter ta start-up?
C'est venu de... Souvent, c'est le regard des autres qui nous amène à changer son propre regard sur soi aussi, parfois. C'est le fait d'être sollicité par des maires qui étaient venus faire cette exposition Jardin-Jardin et qui avaient découvert le Cocotarium et qui, du coup, nous avaient contactés suite à cette exposition et qui souhaitaient installer un Cocotarium dans leur ville. Mais à l'époque, c'était une affiche. Enfin, c'était le concept.
Pourquoi, comment l'installer dans la ville, comment ça, pour visualiser un petit peu pour nos auditeurs, comment il prend forme ce Cocotarium? C'est un poulailler géant, du coup, que tu...
Alors, ça ressemble un peu au kiosque à musique d'antan, entre une volière et les kiosques à musique d'antan. D'ailleurs, sa forme est très significative puisque l'idée, c'était vraiment de pouvoir redonner vie à ces lieux qui étaient des lieux emblématiques où les gens se rencontraient pour assister à du théâtre, à des concerts, à de la danse. C'était vraiment des lieux communs dans la ville où les gens se rencontraient. Et l'idée du Cocotarium, c'était de reprendre un peu ces lieux communs qui sont devenus désuets aujourd'hui et de le refaire vivre et de le replacer au cœur des villes pour ramener la rencontre en fait et le partage.
D'accord.
Donc c'est des grandes structures qui font 5 mètres de haut. Elles sont assez gigantesques, 5 mètres de haut par 3 de large.
Et le premier que tu as implanté, il était où?
Le premier Cocotarium a été installé dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, à Neuville-sur-Oise, à côté de Cergy-Pontoise.
Ah, mais mes parents sont à Montmorency, donc c'est pour ça que je connais bien le Val d'Oise. Ah oui, j'ai loupé le Cocotarium. Non, mais de toute façon, tu en referas. D'ailleurs, avec le confinement, tu m'en parleras. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Donc tu me disais que du coup, bouche à oreille, plusieurs maires t'ont demandé. Et puis à un moment, ça a commencé à être rentable, c'est ça?
Non, ça n'a pas été dans ce sens-là. C'est plus que, voilà, au départ, il y a eu pas mal de demandes comme ça. Et un jour, il y a eu la Cité des Sciences qui m'a contactée pour savoir comment mettre en place ce projet sur le campus. Et à l'époque, je me suis dit, si je commence à me lancer dans... Parce qu'il fallait quand même aller voir des industriels, il fallait convaincre des industriels
bien
du
sûr,
projet pour réussir à amener des gens à nous suivre dans le développement de ce produit. Il fallait du coup faire appel à des artisans, mobiliser ces artisans, parce que pour faire un chiffrage sur ce type d'infrastructure, c'est payer des études. Donc, il y avait beaucoup d'investissements à la base. Donc, moi, je n'étais pas sûre de vouloir me lancer. Et c'est avec la mobilisation et avec les demandes en fait entrantes, la Cité des Sciences, les maires, etc. À un moment donné, je me suis dit bon, soit j'y vais et je vis l'expérience Cocotarium à fond en me donnant les moyens d'y arriver, même si c'est dur. Soit je laisse de côté le projet et c'est tout. Ça aurait été une aventure sympa, mais voilà. Il se trouvait que moi, dans mon travail, je me posais quand même beaucoup de questions. Le sens, en fait, de ce que je faisais, je vais pas dire que je m'ennuyais parce que je faisais quand même pas mal d'heures, mais disons que je me posais des questions sur le sens de ce que je faisais au quotidien. Et du coup, c'est là où je me suis dit, là, j'ai peut-être quelque chose à explorer du côté du Cocotarium. En plus, moi, j'ai toujours
aimé... C'était
une chance de pouvoir explorer ce domaine-là qui m'a toujours intéressée. Le fait de monter des projets un peu utopiques comme ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai un peu toujours fait.
Et donc, la Cité des Sciences te finançait pour l'installation
Alors, c'était un appel d'offres. Ils ont lancé un appel d'offres que j'ai perdu. Donc, première claque.
Ah. Oui, mais il en faut, hein, en même temps. Enfin, il en faut. C'est mieux de ne pas en avoir, mais pour progresser, c'est suffisamment tôt pour se poser les bonnes questions, d'ailleurs, aussi.
Exactement. Ouais, non, c'est jamais un long fleuve tranquille. On apprend énormément, on doute beaucoup, tous les jours, en permanence. Peu importe que ça marche ou pas, on doute en permanence. Mais à chaque fois, on apprend, et à chaque fois, on s'améliore, et à chaque fois, on se dit qu'on va jamais y arriver, mais en fait, on se perfectionne petit à petit, et puis finalement, on y arrive quand même. Donc voilà. Mais ça s'est pas fait en un clin d'œil non plus, hein. Faut pas croire au miracle. Non plus.
Ça fait combien de temps que Cocotarium existe? Enfin, existe et comment ça?
Ça fait 2 ans que la boîte a été créée et ça fait seulement depuis juillet 2019, donc un peu plus de 6 mois, qu'on commercialise véritablement les Cocotariums. Donc c'est assez récent au niveau de la commercialisation, même si le concept existe depuis 2 ans. Il y a eu quand même 1 an et demi de développement du produit, d'aller trouver des fonds, de développer des partenariats, d'améliorer, d'optimiser la structure. Voilà, c'est quand même très long.
Et vous êtes combien dans la start-up ?
Depuis presque 1 an, on est 2. On n'est pas nombreuses, mais par contre, on a énormément de partenaires.
Non, mais en même temps, oui, mais... Et là, du coup, avec le... C'était quoi tes... Enfin, j'allais te demander quels sont tes prochains projets, mais quels étaient déjà avant cette situation sanitaire exceptionnelle et dramatique aussi, tes projets, est-ce qu'ils vont pouvoir être mis en œuvre ou est-ce que du coup, là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué?
Alors, on a, bizarrement, de janvier à février, on était en plein développement et c'était très positif et très encourageant. Là, avec le confinement, ça a calmé un peu les choses, mais on est plutôt agréablement surprise de voir que il y a quand même beaucoup de demandes et que, en tout cas, les questionnements climatiques, environnementaux, etc., sont plutôt des sujets d'actualité et il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui ont envie, en tout cas, de ramener un peu de sens dans leur activité et de...
Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au confinement, toutes ces remises en question? Est-ce que les gens peuvent se poser ces bonnes questions? Est-ce que c'est un moment propice justement à ces réflexions?
Je pense que le confinement nous oblige à nous poser des questions et envisager nos modes de vie différemment. Alors, de quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on dit qu'il y aura un avant et un après... C'est certain, j'en suis convaincue aussi. Différent de quelle manière, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on ressent 2 choses avec ce confinement. Il y a à la fois une espèce de réconfort de se dire que la planète, en ce moment, elle se fait des vacances sans nous et que ça lui fait un peu du bien. Donc c'est assez réconfortant. Et d'une autre manière, il y a la crise économique qui évidemment touche les plus fragiles et ça c'est une situation d'injustice qui est pas du tout confortable et pas du tout agréable à envisager. Mais je pense que il y a une espèce de dualité entre les deux et que de cette dualité, on peut réussir à envisager une dimension sociale plus juste, enfin en tout cas imaginer des mesures sociales plus justes et reconsidérer chacun, qu'on soit chef d'entreprise, peu importe à quel échelon on se trouve, peut-être se dire en fait le bonheur il est où? Est-ce que venir tous les matins hyper stressé pour aller travailler, c'est vraiment ça ma vie? Ok, j'ai un super poste, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le faire? Et du coup de se dire, mais en fait si on travaille tous en valorisant les uns les autres, enfin avec d'autres méthodes où tout le monde peut sortir gagnant de ça, parce que je pense que c'est une question d'homme et une question de personne qui fait que le quotidien est agréable ou pas.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, mais du coup, ça me paraît comme... Enfin, c'est pas du tout une vision pessimiste de la chose. C'est juste que je me pose la question, toi qui es quand même sur des... Pas de l'événementiel, mais c'est quelque chose que... Oui. Tu me disais, le poulailler urbain, ça va être un lieu de vie. Mm. En ce moment où on nous demande de rester éloignés les uns des autres, quand est-ce que tu penses que ça va pouvoir repartir? Est-ce que tu as prévu... des alternatives ou est-ce que juste tu es confiante et moi du coup je t'accompagne dans ta confiance et j'essaierai d'être positive aussi. Comment tu penses envisager, puisqu'on va être déconfiné la 11, mais avec toujours les mêmes distanciations sociales, etc.
Ben justement, en fait, je pense qu'on va être, on va devoir se responsabiliser par rapport à ça, éviter d'aller de plus en plus loin pour, enfin, en tout cas, optimiser nos trajets, optimiser nos déplacements,
oui, pour
nos
les vacances, mettre en, pour mettre en, pas en service, mais pour créer tes poulaillers urbains. Du coup, comment tu vas faire? Puisque ça va être un endroit où normalement, enfin, les demandes, c'est quand même sur des demandes de rassemblement, non, autour de ces poulaillers urbains.
Alors non, pas forcément. Alors déjà, nous, on valorise vraiment beaucoup le local déjà. Donc l'idée, c'est pas de se dire qu'on va aller livrer l'autre bout de la planète ou le sud de la France en traversant la France. Nous, on essaye vraiment de valoriser. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on est surtout présent en Île-de-France. On essaie de valoriser à échelle locale, et le fait de pouvoir livrer en local nous permet d'avoir cette liberté de déplacement et de mouvement.
Donc sur un rayon déterminé. Sauf moi qui n'ai pas de jardin, mais si j'avais un jardin, je pourrais te commander un poulailler.
Oui, on travaille plus avec
les... Pour avoir mes œufs. En plus, il y a des pénuries d'œufs, donc en fait, tu peux te positionner là-dessus aussi. Tu peux te positionner là-dessus.
Oui, alors après, nous, on s'adresse vraiment beaucoup plus aux collectivités et aux entreprises, mais en soi...
Tu vas voir qu'après le podcast, tu vas avoir un boom de particuliers qui vont demander les poulets et tu vas me dire « Alice, qu'est-ce que tu as fait comme pub ?» Il y en a plein. Moi, j'avais un ami là, qui a acheté des poules et qui avait une poule pondeuse et une poule non pondeuse, et qui s'est éclatée là pendant le confinement avec ses poules. Donc c'est vrai que c'est aussi des alternatives. Bon, après, en appartement, je suppose qu'il n'y a pas de poulailler urbain, mais en appart, tu confirmes ça?
Le concept de Cocotarium, c'est justement de permettre aux gens qui n'ont ni espace ni temps pour s'occuper de poules d'avoir accès quand même à des poules, parce qu'il y a un Cocotarium dans le parc à côté de chez eux, et qu'ils sont juste à descendre en bas de chez eux pour aller au Cocotarium.
C'est pas une propriété privée, c'est quand même public.
Voilà, collaboratif, participatif, mais c'est, on partage ensemble.
Que la municipalité, en fait, achète que chaque ville et son poulailler urbain, quoi.
Exactement. Un réseau de Cocotarium sur le territoire.
Donc, on appelle à tous les maires, j'appelle à tous les maires qui vont écouter le podcast de contacter Aurélie, qui sera un plaisir de livrer des poulaillers urbains. Mais je trouve le concept génial, en fait, de revenir à, et surtout ce que je trouve génial, finalement, c'est que des idées comme la tienne, qui sont finalement, je dis pas que c'est une idée simple, hein, parce que moi, j'aurais pas eu le culot, et pourtant, je suis culottée. Je suis plutôt audacieuse et culottée, mais là, je pense que je n'aurais jamais osé me lancer dans un business comme ça, parce que à la fois c'est simple, c'est pédagogique, et en fait ça marche. Et je pense que c'est ça qui avait séduit Veolia aussi à ce moment-là, c'est que c'était assez halluciné que finalement quelque chose aussi simple et fonctionne et séduise autant de monde. Et je crois que tu me disais aussi lors de Change Now que tu avais eu plein de demandes. D'ailleurs, t'étais à bout de souffle quand je t'avais rencontré. Et je suis débordée, j'ai trop de demandes. C'est trop mignonne. Et donc moi, je crois en un avenir plus minimaliste et simple. Enfin, simpliste, oui, c'est le terme. Hein.
On parle de sobriété, c'est ça. En fait, c'est pas réinventer la roue. On a des moyens à disposition qui sont hyper simples. Le Cocotarium, c'est quoi? C'est mettre à disposition des citadins ce que nos grands-parents ont toujours fait à la campagne. C'est tout. C'est aussi simple que ça, et du bon sens.
Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Cocotarium ou pas?
En fait, on a pas mal de spécificités. Enfin, ce que j'ai vraiment envie d'ajouter, c'est que le Cocotarium, il essaye vraiment d'être cohérent de A à Z. C'est-à-dire que dans notre façon de produire nos Cocotariums, on ne va pas chercher du bois à l'étranger. C'est du bois qui est issu des forêts françaises et qui est fabriqué en France. Enfin, tous nos Cocotariums sont fabriqués en France. On pense à la recyclabilité et la fin de vie du produit. On fait travailler des structures en insertion. On essaye autant que possible de récupérer des poules issues de l'industrie agroalimentaire, de leur apporter une seconde vie. Et on essaye aussi de valoriser les commerces de proximité, puisque nos œufs sont mis en point relais dans les commerces de proximité. Quand vous allez chercher votre pain chez votre boulanger, vous pouvez en même temps récupérer vos œufs gratuits du Cocotarium parce que vous êtes inscrit avant, et du coup vous allez récupérer vos œufs gratuitement et vous allez redécouvrir votre boulanger, votre poissonnier, votre charcutier. Et l'idée, c'est ça, c'est de redonner du sens et de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître dans leur quartier et revaloriser la consommation locale. Enfin, c'est juste du bon sens. Et en fait, le Cocotarium, il essaie de s'exprimer sous différentes facettes, comme ça, toujours avec le plus de cohérence possible. Voilà, la cohérence.
Et moi, j'aimerais ajouter, d'habitude, je finis sur quelque chose, mais j'aimerais te demander si tu avais un petit mot d'encouragement ou autre à tous les start-upers, justement, de la green tech notamment, qui se lançaient avant le confinement. Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme message ?
Qu'on ne va pas se mentir, que ce n'est pas simple tous les jours, que c'est normal de douter en permanence, mais qu'en même temps, ces doutes, c'est ce qui nous force à nous améliorer au quotidien, en permanence, de remettre en question. C'est plutôt ça comme mode de fonctionnement, je trouve. Et que dès l'instant, on veut faire des choses pour apporter du bien-être aux gens, pour améliorer son environnement. Foncez, parce que c'est beau. Et en fait, même si c'est dur, le bien-être qu'on peut ressentir en faisant du bien, en fait, c'est ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et c'est déjà la première des récompenses qu'on se fait à soi-même.
Bah, sur ces jolis mots, Aurélie, je vais te laisser confiner en paix. Merci beaucoup d'être venue. Et on partagera un café où je viendrai voir un de tes poulaillers post-confinement avec grand plaisir. C'est vrai que normalement, j'ai le temps d'au moins d'échanger en réel, et ça me manque, le contact humain quand même. Mais j'étais ravie d'échanger avec toi.
Moi aussi, ça m'a fait très plaisir.
Et merci à vous d'avoir écouté l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Deezer, Bababam et toutes les applications de podcast. Pod Install aussi qui a récemment été mis en place. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et proposez-moi des profils tout aussi inspirants qu'Aurélie. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'Empreinte.